C'était un matin comme tous les autres pendant mes études. Comme tous les autres matins, je me suis présenté sur le quai de gare. Comme tous les autres matins, je suis monté dans le train qui s'est présenté devant le quai. Mais ce matin-là, je n'avais pas vu qu'il se présentait 3 minutes plus tôt que d'habitude. Comme tous les matins, j'ai continué ma nuit dans le train. Et pas comme tous les matins, je me suis fait tirer de mon sommeil de manière assez brutale quand j'ai soudain entendu que le train entrait en gare de Nîmes et que j'allais faire mes études sur Avignon. Donc ça a été un coup d'adrénaline intense. Je me suis levé et bien sûr, quand le train s'est arrêté en gare, je suis tout de suite descendu du train. J'ai repris un billet pour Avignon et je suis cette fois monté dans le bon train pour me rendre en cours. On va parler ce matin de la conversion. La conversion, ce terme qui signifie opérer un demi-tour, faire en quelque sorte un 180 degrés dans nos vies. C'est se rendre compte à un moment donné sur le cheminement de nos vies qu'on va dans une mauvaise direction. Et c'est prendre cette décision, faire ce choix de partir dans une direction radicalement opposée. C'est en quelque sorte sortir du mauvais train pour prendre le bon train. Alors, quand on parle de conversion, on peut se poser la question et se dire, mais ce choix que l'on opère à un moment donné de notre vie, est-ce que c'est nous qui prenons cette décision? Quelle est la part que Dieu a dans ce choix que nous prenons? Et bien sûr, on est dans une courte série de 4 prédications sur le rôle et l'œuvre du Saint-Esprit. Et on va se poser ce matin la question, quel est le rôle du Saint-Esprit dans notre conversion? Alors, se poser cette question nécessite de faire un peu comme un arrêt sur image, un zoom sur tout un ensemble de choses qui se passent, mais qui se passent de manière un petit peu presque à l'œil humain, on pourrait dire de manière instantanée, qui se passent toutes ensemble. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos qui tournent sur Internet où la technologie fait qu'aujourd'hui, on peut filmer une scène et il y a une quantité d'images tellement élevée qui fait qu'on peut ensuite découper image par image et avoir de manière nette, par exemple, un tir d'une arme qui va traverser un œuf et on arrive à attraper chaque séquence de ce qui se passe et de voir finalement au ralenti quelque chose qui se passe soudainement quand on le voit en temps réel et on n'arrive pas à tout décomposer. C'est un petit peu ce qu'on va voir dans la conversion. Il y a une œuvre de l'esprit dans nos vies et quand je partage cela, je veux aussi le partager avec beaucoup d'humilité parce qu'on a des données bibliques qui nous éclairent un petit peu sur ce que Dieu fait à ce moment-là. Mais en même temps, l'œuvre de Dieu est tellement immense, tellement profonde, tellement insondable, que c'est en même temps pas facile de définir précisément, et je pense qu'on n'arrivera pas complètement à tout dire et à tout voir, parce qu'il y a voilà, une œuvre grandiose de Dieu. Mais voici quelques éléments que je partage avec vous ce matin. Première chose qu'on va voir, c'est que le Saint-Esprit nous régénère. La Bible décrit la situation naturelle de tout être humain comme étant mort spirituellement. Éphésiens chapitre 2 verset 1. Autrefois, dit Paul, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. En fait, la Bible décrit que notre être tout entier est affecté par le péché. Notre corps, notre esprit, nos pensées, notre volonté et même nos sentiments, nos émotions. Cette mort spirituelle signifie que nous sommes par nature, dès notre naissance, séparés de Dieu, qui est parfait, et lui qui est saint, qui est pur, sans péché, sans défaut. L'homme mort spirituellement n'a pas plus la capacité de se redonner la vie spirituelle que ne l'aurait un mort physique de se ramener à la vie, de ressusciter. D'ailleurs, Jésus, en parlant à un chef religieux juif, Nicodème, a dit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Cette œuvre de la nouvelle naissance, c'est aussi ce que les théologiens appellent la régénération. Et c'est donc le miracle par lequel une personne passe de la mort spirituelle à une nouvelle vie spirituelle. Et sans cette vie nouvelle, dit Jésus, il est impossible à un homme d'être sauvé. D'ailleurs, c'est intéressant de s'arrêter quelques secondes sur ce terme « sauvé ». La définition, c'est « arracher quelqu'un à une situation de détresse ou de péril pour le mettre en sécurité, sain et sauf ». Dans la Bible, il s'agit donc du processus par lequel nous passons de la mort spirituelle à la vie éternelle, de l'hostilité envers Dieu à l'amour pour Dieu, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Quelqu'un a dit « cette nouvelle naissance n'est pas un plus réservé à certains chrétiens, c'est ce qui nous fait entrer dans la vie chrétienne ». Maintenant qu'on a défini cette régénération, cette nouvelle naissance, peut regarder à qui opère cette nouvelle naissance. Toujours Jésus, dans Jean chapitre 3, versets 5 à 6, affirme « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Par ailleurs, l'apôtre Paul affirme « Nous qui étions morts par nos offenses, il, en parlant de Dieu, nous a rendu la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. » Ces deux versets témoignent que c'est à la fois Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit qui accomplissent cette nouvelle naissance, cette régénération qui est d'ailleurs ici décrite comme une résurrection. Si tout ce que Dieu a fait pour nous, il l'a fait par Jésus-Christ, tout ce qu'il fait en nous, il le fait par le Saint-Esprit. En fait, on se rend compte que toute la Trinité est à l'œuvre dans cette opération de sauvetage. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit est impliqué pour notre salut. Alors, ce qu'on peut retenir ici, c'est qu'il nous est impossible d'évoluer pour chercher à devenir une version meilleure de soi-même. Michaël 1.0 a l'impossibilité de basculer en Michaël 2.0. Ce n'est pas possible. Nos efforts, nos bonnes résolutions, nos bonnes actions sont totalement insuffisantes aux yeux de Dieu. D'ailleurs, dans Ésaïe chapitre 64, verset 5, est affirmé « Toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. » Nous avons donc besoin que Dieu, par son esprit, opère cette transformation radicale de nos cœurs. Cette régénération est donc cette action préalable de Dieu en nous qui nous rendra capables de comprendre l'Évangile et d'y répondre par la foi. C'est ce qui s'est passé par exemple pour Lydie. Dans le livre des Actes, on lit « elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Et elle va par la suite se convertir et se faire baptiser. Le Saint-Esprit nous régénère, nous donne cette vie nouvelle. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous convainc. Et nous convainc donc de pécher tout d'abord. Avant qu'une personne accepte de passer sur une table d'opération, il lui faut d'abord reconnaître et accepter qu'elle a un problème qui nécessite une intervention chirurgicale. Et il en est de la même manière pour nous. Nous devons prendre conscience de notre péché et en être convaincus. Jésus disait à propos du Saint-Esprit, « Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est donc le Saint-Esprit qui exerce cette conviction dans la vie d'une personne et il travaille généralement de mainmise en partenariat étroit, très rapproché, avec la parole de Dieu, avec le message de l'Évangile. C'est intéressant de voir que le verbe traduit par « convaincre » implique que la vérité, donc comprenez par là l'Évangile, le message de l'Évangile, ce que Dieu a fait pour nous en Christ, la vérité est présentée avec tant de force qu'on ne peut la contester. Alors de nouveau, quand on parle du péché, les gens sont généralement plutôt prêts à reconnaître certains péchés comme le mensonge, comme le vol ou peut-être d'autres choses. Mais quelque part, leur réaction sera bien souvent, de toute façon, on le sait, personne n'est parfait. Nous considérons nos propres erreurs dans ces cas-là, souvent en nous comparant à d'autres qui sont pires que nous. Ou alors en imaginant peut-être que, quelque part, si Dieu existe, il est trop bon pour sanctionner même ces petites choses-là. Et effectivement, le Saint-Esprit peut nous révéler la gravité de n'importe quelle faute, mais ce qu'il vise surtout, dans le verset qu'on a vu précédemment, c'est le péché d'incrédulité. Ce qu'il veut nous montrer, c'est notre refus de croire en Jésus, notre refus de croire en qui il est et en ce qu'il a fait pour nous à la croix. Il nous révèle notre désir de vivre sans Dieu. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, la personne qu'on pourrait nous considérer comme la plus méchante sur terre et imaginer peut-être les pires atrocités qu'une personne puisse commettre, ou la personne la plus morale, qui a peut-être la vie la plus exemplaire sur cette terre, mais qui toutes deux ne connaissent pas Dieu, aux yeux de Dieu, toutes les deux sont autant perdues l'une que l'autre. Le Saint-Esprit opère une œuvre de conviction, il nous convainc de notre péché. Mais quand le Saint-Esprit nous révèle notre péché, ce n'est jamais, jamais pour nous écraser de culpabilité et nous laisser nous morfondre de désespoir devant la noirceur de notre cœur. Il ne nous dit pas « c'est bien, tu as vu que tu n'es pas en règle avec Dieu et débrouille-toi avec ça ». Non, le Saint-Esprit vient aussi nous convaincre de justice. Il nous révèle que, comme un chirurgien, Dieu est venu pour enlever cette tumeur qui nous condamnait. Il nous révèle que Dieu a pourvu lui-même à notre acquittement au travers de la mort et de la résurrection de son Fils Jésus-Christ. En nous convainquant de péché et de justice, le Saint-Esprit nous conduit comme irrésistiblement à nous repentir et à croire. Et les théologiens appellent ça l'appel efficace de Dieu dans nos vies, ou alors la grâce irrésistible que Dieu nous révèle. Ce n'est rien d'autre que le message et cet appel que Jésus a dressé quand il était sur terre. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Cette conviction de péché va nous pousser à la repentance, c'est-à-dire reconnaître notre péché et demander pardon à Dieu. Ce qui correspond dans mon illustration d'introduction au fait de descendre du train. Et la conviction de justice nous pousse à placer notre confiance en Jésus-Christ seul pour notre salut. Et cette confiance, c'est la foi. Et toujours dans cette illustration d'introduction, ça correspond au fait de monter dans le train qui part dans la bonne direction. La repentance et la foi sont toutes les deux liées comme les deux faces d'une même pièce. Si nous nous détournons de nos péchés, si nous nous repentons de notre péché, c'est pour nous tourner vers Jésus. Et si nous nous tournons vers Jésus, cela implique automatiquement de nous détourner de notre péché. Jésus affirme « Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » C'est donc, comme je disais tout à l'heure, un acte instantané qui se produit, même si nous mettons parfois des années pour arriver au point où nous cédons devant cet amour et devant cette grâce imméritée et immense que Dieu a pour nous. Le Saint-Esprit nous régénère, le Saint-Esprit nous convainc de péché et de justice. Dernièrement, troisièmement, le Saint-Esprit nous unit. Dès qu'une personne place sa foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en elle. Jean, disciple de Jésus, affirme « En disant cela, il, donc en parlant de Jésus, faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. » Par ailleurs, l'apôtre Paul affirme « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » La présence du Saint-Esprit est dans notre vie est donc la marque de notre appartenance à Jésus-Christ. Nous sommes en lui et lui est en nous. D'ailleurs, c'est intéressant de faire l'exercice de parcourir les lettres du Nouveau Testament et de voir tous les « en lui » ou « en Christ » qui révèlent les nombreuses bénédictions, les nombreuses grâces qui découlent de cette union, de notre union avec Jésus-Christ, opérée par le Saint-Esprit. Ce mouvement de l'Esprit qui vient habiter dans le croyant s'appelle le baptême du Saint-Esprit ou le baptême dans le Saint-Esprit. Paul, en écrivant aux chrétiens de l'église de Corinthe, affirme « En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit, pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. » Ce baptême de l'esprit est aussi ce qui nous intègre à l'Église, dit Paul, qui est le corps de Christ, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui, elles aussi, ont cru en Jésus. Nous ne sommes pas donc seulement unis à Christ, nous sommes aussi unis à nos frères et sœurs qui ont aussi reçu le même esprit. Et j'ouvre une petite parenthèse sur ce sujet en évoquant ce baptême de l'esprit. Il me semble important d'apporter une précision sur une tradition, sur une croyance qui existe dans certains de nos milieux évangéliques et qui affirme que le baptême du Saint-Esprit serait une seconde expérience à rechercher après la conversion. En toute humilité, encore une fois, ce n'est pas ma conviction, ce n'est pas ma compréhension de ce que la Bible nous dit, ni celle de l'Église ici à Cré, ni celle même de la famille d'Église à laquelle nous sommes associés, les CAEF. Et peut-être pour un développement plus approfondi de ce sujet, parce que c'est impossible de prendre le temps de traiter de cela ce matin, mais je pourrais partager sur le site internet de l'Église une vidéo d'un pasteur qui explique très très bien en 15 minutes pourquoi il y a cette croyance et pourquoi il croit aussi que ce n'est pas cela. Et puis, bien sûr, je me tiens aussi disponible à la fin du culte. Si vous voulez en discuter, on peut vraiment prendre le temps pour ça, ce serait avec plaisir. Je ferme la parenthèse et on va conclure par quatre applications qui sont liées donc au rôle de l'Esprit-Saint dans notre conversion. Cet Esprit qui nous régénère, qui nous convainc, qui nous unit. Première application de cela est celle-ci, célébrons la grâce de Dieu. À nouveau, nous avons vu que nous n'avons aucune raison de nous enorgueillir, de nous vanter, de nous glorifier ou de tirer un quelconque mérite de notre conversion. Dieu seul est à l'initiative. C'est son Esprit qui nous donne cette vie nouvelle. C'est son Esprit qui nous convainc de péché, de justice. C'est le Saint-Esprit qui est venu vivre en nous et qui nous unit à Christ. Et même la repentance et la foi, cette réponse que l'on adresse à Dieu devant son invitation, la Bible nous dit que chacun d'eux sont des dons de Dieu. Dieu est celui qui donne la repentance. Dieu est celui qui donne la foi. Tout est grâce. Et Dieu ne nous fait donc pas cette grâce parce que nous serions meilleurs ou plus méritants que d'autres. Je n'ai pas la réponse à cette question que je me pose depuis que je suis converti. Pourquoi moi ? Mais je sais la réponse que nous sommes invités à donner à Dieu, et c'est ce que nous avons fait ce matin. Célébrer la gloire de sa grâce. Toute la gloire est pour Dieu seul. C'est lui qui mérite tous les honneurs pour notre salut. Deuxième application, prions pour nos connaissances qui ne connaissent pas encore Jésus. Parce que le Saint-Esprit est le seul capable d'ouvrir les cœurs, de donner cette nouvelle vie spirituelle, de rendre la personne sensible à qui est Dieu. Alors prions qu'il fasse pour nos connaissances encore non croyantes ce qu'il a fait pour nous dans nos vies. Même quand nous lisons la Bible avec ces personnes, que nous leur parlons de Jésus, que nous leur expliquons l'Évangile. Arrosons ces moments de la prière pour que Dieu ouvre leur cœur. Troisièmement, remercions Dieu pour les nouveaux désirs qu'il a placés dans nos cœurs. Avant de devenir chrétien, nous voyons peut-être la foi chrétienne comme étant une interdiction de faire ce que nous avons envie de faire. Ou alors, une obligation de faire ce que nous n'avons pas envie de faire. On discutait avec quelqu'un à ce sujet hier et on se disait, mais des fois, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, peuvent se dire, mais devenir chrétien, mais qu'est-ce que c'est ringard. Mais quand nous devenons chrétiens, quand Dieu opère cette transformation radicale de nos cœurs, il change aussi nos désirs. De manière radicale, parfois, mais aussi de manière progressive. Petit à petit, nous rejetons certaines choses que nous aimions avant et nous aimons ce que nous aurions parfois rejeté. Nous avons de plus en plus ce désir de vivre pour Dieu plutôt que pour nous-mêmes. Et enfin, attachons-nous à une église locale. On a vu que le Saint-Esprit nous intègre aussi à l'Église, le peuple de Dieu. Il nous donne un amour pour Dieu, mais aussi un amour pour notre prochain et pour nos frères et sœurs, qui sont aussi unis à Christ par ce même esprit. Il nous enseigne que cette nouvelle vie avec Dieu ne se vit pas seule dans notre coin, mais elle se vit aussi avec son peuple, qui est l'Église. Et cela se manifeste localement en devenant membre d'une communauté où nous côtoyons des personnes imparfaites comme nous, mais que Dieu a aussi sauvées, où nous pouvons prendre soin les uns des autres et où nous pouvons nous servir les uns les autres avec les dons que le Saint-Esprit nous a fait aussi au moment où il est venu habiter parmi nous, dans notre cœur. Mais ça, ce sera le sujet de la prochaine prédication et ce sera dimanche prochain avec Mamie. Donc je n'en dirai pas plus, je vais juste prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, on veut juste encore nous émerveiller devant ce si grand salut, cette grâce dont on est au bénéfice. Et voilà, merci pour ce cadeau que tu nous as fait. Comme on l'a dit, on n'a pas la réponse à cette question « Pourquoi nous ?» Mais voilà, tu nous affirmes dans ta parole que tu nous as choisis, tu nous as aimés. On l'a même lu ce matin avant la fondation du monde. Et Seigneur, voilà, c'est juste un cadeau que tu nous fais. Et Seigneur, on veut te remercier, te dire tout la joie qu'il y a dans nos cœurs encore pour cette bénédiction de te connaître, de savoir que nos vies sont en sécurité, qu'on est à nouveau en relation avec notre Créateur et que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver sur cette terre. Seigneur, je te prie pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, qui ne sont pas encore passés par la foi, la repentance, qui n'ont pas encore reçu cette conviction de ce que tu as fait pour eux, cette conviction aussi de leur état de perdition, de cette réalité qu'ils sont dans un mauvais train. Et Seigneur, que tu opères cette conviction dans leur cœur, que tu les visites, que tu leur ouvres le cœur comme tu l'as fait pour Lydie et pour nous, que tu les rendes sensibles à ces choses qui te concernent, que tu les convaincs de péché et de justice. Et Seigneur, que tu leur donnes cette repentance et cette foi pour venir à toi et répondre à cette grâce immense que tu offres à chacun. Merci encore pour cette grâce immense, Seigneur. Amen.